VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 19h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 19 juin 2017. Burkina Faso, les résultats des analyses ADN réalisées sur la dépouille supposée de Thomas Sankara n'ont pu confirmer que ce soit bien le président, l'ancien président. Mali, 5 suspects arrêtés, 4 assaillants tués après l'attentat djihadiste près de Bamako. On fera le point complet avec nos correspondants sur place. Nigeria, série d'attentats de Boko Haram dans un camp de déplacés près de Maïdougouri. Et puis le Portugal qui est dans une lutte acharnée contre des feux de forêt qui ont fait au moins 62 morts. Bien sûr, ne manquez pas votre rendez-vous avec les sports et la Minute Éco juste après le journal. Au Burkina Faso, les résultats des analyses ADN réalisées sur la dépouille supposée de Thomas Sankara n'ont pu confirmer que ce soit bel et bien l'ancien président. Bagassi Koura a joint un des avocats de la famille, Maître Prosper Farama.
Les experts n'ont pas pu, au regard des éléments qui étaient à leur disposition, simplement établir des résultats positifs. Ils n'ont pas pu, si vous voulez, travailler pour tirer les conclusions qui puissent être indiscutables. Là, ça laisse susciter, en tout cas en ce qui concerne l'identification de la tombe, évidemment que ça laisse susciter des doutes, non seulement pour Thomas Sankara, mais pour tout, pour l'ensemble des personnes qui ont été enterrées avec lui. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'effectivement, les noms qui ont été mis sur chacune de ces tombes étaient avérés. Le doute, comme vous le dites, persiste aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'identification des restes et des tombes. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur la suite du procès? À mon avis, non. Parce que ce qui nous importe en tant qu'avocat, c'est de constater et de tirer la conséquence que Thomas Sankara et ses compagnons aient bel et bien été assassinés, ce qui n'est discuté aujourd'hui par personne. Et maintenant, c'est d'aller vers un procès pour établir la responsabilité des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire.
Au Mali, en une semaine, une dizaine de soldats ont péri dans 3 attaques terroristes. 4 civils et un militaire ont été tués hier dans l'attaque visant des étrangers près de Bamako. Selon le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré, 4 assaillants ont été également tués. Dans le nord du Mali, des assaillants ont été mis en déroute par les militaires dans la localité de Bamba, située à 200 km de Gao. Les populations sont sorties massivement pour applaudir les soldats maliens. De Gao, la correspondance de Boubacar.
C'est aux alentours de 5h du matin, heure locale, que le poste militaire de la localité de Bamba a subi une attaque d'hommes armés venus à bord de 3 4x4. Les assaillants ont laissé leur véhicule derrière la colline située au côté ouest du village pour entrer à pied en ville. Les militaires maliens qui veillent au grain ont riposté énergiquement, mettant cette fois-ci en déroute les assaillants. Le bilan provisoire fait état de 1 mort et 1 blessé capturé du côté des assaillants, et 1 mort parmi les soldats maliens. Les populations très heureuses sont sorties ce matin pour saluer la bravoure des militaires maliens. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au moins 126 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye, a déclaré lundi l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Selon le récit de 4 survivants, quelques 130 migrants, dont beaucoup de Soudanais, avaient embarqué jeudi en Libye à bord d'un canot pneumatique qui a fait naufrage au bord de quelques heures de navigation. Seules 4 personnes ont pu être récupérées saines et sauves par des pêcheurs libyens. Dans le nord-est du Nigeria, les attentats suicides et coordonnées ont fait au moins 16 morts dans un camp de déplacés près de Maïdougouri, capitale de l'état du Borno. Les détails de Ekiabadou.
2 femmes ont déclenché leur ceinture explosive dans le village de Kofa, qui abrite le plus grand camp de déplacés. 2 autres explosions ont eu lieu de manière presque simultanée dans le camp, ne faisant cette fois aucune autre victime à part les femmes kamikazes. Les blessés, dont on ignore le nombre exact, ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Maïdougouri. Le camp d'Alori abrite des dizaines de milliers de personnes qui ont fui leur foyer à la suite des violences entre armée nigériane et Boko Haram. En janvier 2016, 85 personnes ont été tuées dans ce même camp, dans un raid mené par les djihadistes. Les violences ont baissé, mais les attentats suicides et les raids continuent dans toute la région, particulièrement dans l'état du Borno, berceau du groupe Boko Haram. Les islamistes nigérians ciblent de plus en plus les camps de déplacés, les mosquées et les universités.
Le président béninois Patrice Talon a annoncé lundi en conseil des ministres avoir subi deux opérations chirurgicales à la prostate et à l'appareil digestif lors de son récent séjour à Paris, d'où il est rentré dimanche soir après presque un mois d'absence. 8 étudiants interpellés la semaine dernière à la suite de manifestations sur le campus de l'université de Lomé pour exiger de meilleures conditions d'éducation sont toujours en détention, ont indiqué lundi des responsables d'associations étudiantes. Certains parents des étudiants ont confirmé leur détention. Des responsables de la police ont reconnu avoir interpellé des étudiants, mais n'ont pas voulu préciser le nombre. Des affrontements avaient opposé des étudiants à la police mercredi et vendredi sur le campus de Lomé, à la suite d'un rassemblement de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Un accord de paix prévoyant un cessez-le-feu immédiat a été signé lundi à Rome sous l'égide de la communauté catholique Sante Diggio entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Les parties se sont engagées notamment à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire centrafricain sous le contrôle de la communauté internationale. Selon le texte de cet accord rendu public au siège romain de cette communauté, très impliquée dans les médiations de paix, notamment en Afrique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats intenses ont repris dimanche entre les militaires congolais et des miliciens pour le contrôle d'une cité près de Beni, dans le nord de la province du Nord Kivu. Les forces armées de RDC avaient annoncé samedi avoir repris le contrôle de Kabasha, au sud de Beni, après avoir utilisé des armes lourdes contre les miliciens d'un groupe Maïmaï. Un soldat somalien a été condamné à la peine de mort lundi pour le meurtre du jeune ministre des Travaux publics Abdoulaye Siradji, la défense assurant que l'accusé avait tiré par erreur alors qu'il était chargé de la sécurité d'un autre haut responsable somalien. Le chargé d'affaires américain au Soudan a lui entamé dimanche une visite de 4 jours au Darfour en vue d'évaluer la situation sécuritaire dans cette région de l'ouest du pays en proie aux violences.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une jeune musulmane a été tuée ce week-end dans la banlieue de Washington. Elle était portée disparue après avoir quitté une mosquée de la région de Sterling en Virginie. La police dit ne pas enquêter sur un crime de haine. On fait le point avec Morgan Guériec.
4 ou 5 adolescents se sont retrouvés confrontés à un automobiliste alors qu'il venait de quitter un restaurant dimanche à l'heure du petit déjeuner. D'après le Washington Post, citant la police et des responsables de la mosquée, la plupart d'entre eux ont pris la fuite pour se réfugier dans la mosquée, sauf une, identifiée comme Nabra Hassanen, 17 ans, qui a été portée disparue. Une recherche pour la localiser a alors été lancée, puis la dépouille d'une jeune fille a été retrouvée dimanche dans un étang. La police locale a repéré un automobiliste qui conduisait de façon étrange dans la région. Et Darwin Martinez Torres, un homme de 22 ans, a ainsi été arrêté. Il est accusé de meurtre. La police n'a pas expliqué pourquoi la piste du crime de haine a été écartée.
La Cour suprême des États-Unis a jugé lundi qu'il n'était pas possible d'interdire aux délinquants sexuels d'utiliser les réseaux sociaux. Dans une décision prise à l'unanimité, la Haute Cour a jugé illégale une loi très répressive de la Caroline du Nord qui interdit aux personnes ayant un casier judiciaire d'utiliser Facebook ou encore Twitter. On prend la direction de l'Europe avec la Grande-Bretagne qui a été de nouveau sous le choc après un nouvel attentat tôt ce lundi. Un homme au volant d'une camionnette a foncé sur des fidèles musulmans près de la mosquée de Finsbury Park. Claire Morin-Gibourg.
Devant ses bureaux au 10 Downing Street à Londres, la première ministre Theresa May a promis de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. L'attaque a aussi été dénoncée par le maire de Londres, Sadiq Khan, et par plusieurs organisations musulmanes qui ont dénoncé un acte islamophobe tout en appelant au calme. L'attentat s'est produit dans un quartier populaire du nord de Londres. Des habitants sont venus rendre hommage aux victimes tout au long de la journée, déposant des fleurs et des pancartes pour dire « On ne nous divisera pas » ou « Nous sommes une seule communauté ». Ici, aux États-Unis, Ivanka Trump, fille et conseillère du président Donald Trump, a exprimé sur Twitter sa solidarité avec les victimes. Par contre, le président américain n'a pas encore réagi.
Et je vous le disais en titre, la situation au Portugal où plus de 2000 pompiers sont mobilisés dans le pays, dont la moitié dans le centre pour maîtriser un gigantesque incendie qui a coûté la vie à au moins 72 personnes et blessé des dizaines d'autres. Nathalie Barge.
Le feu s'est déclaré samedi à Pedro Gão Grande. La fumée a cloué au sol pendant des heures les avions anti-incendie envoyés par la France, l'Italie et l'Espagne, qui a mis à disposition 100 militaires et 25 pompiers. L'ensemble du pays est frappé par une centaine d'incendies qui ont mobilisé 2000 pompiers et 700 véhicules. La presse a publié de nombreuses photos de voitures calcinées dans lesquelles ont péri une grande partie des victimes piégées par les flammes. Les télévisions passent en boucle des images aériennes d'une route nationale recouverte de cendres. Certaines victimes sont mortes dans leur maison qu'elles n'avaient pas abandonnée à temps, a souligné le Premier ministre Antonio Costa. Le Portugal a connu ce week-end une forte canicule avec des températures dépassant 40 degrés dans plusieurs régions.
Voilà, c'est tout pour ce journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité économique en Afrique. Tout de suite, la Minute Éco vous est présentée par Jacques Aristide.
La Banque centrale ougandaise a de nouveau réduit son taux d'intérêt de 11 à 10% ce lundi grâce à la stabilisation du shilling ougandais vis-à-vis des principales devises et à une diminution de l'inflation ces derniers mois. Selon le gouverneur de la banque, Emmanuel Mutebile, l'économie du pays a progressé de 3,9% 2016-2017, en baisse toutefois par rapport aux 4,7% durant la période précédente à cause de la sécheresse et de la lenteur des investissements dans les projets publics. La mine d'or de Cook en Afrique du Sud restera fermée jusqu'à jeudi au moins, le temps des procédures d'appel entamées par les 1500 miniers que la compagnie propriétaire Sibanye a licencié la semaine dernière pour avoir participé à une grève spontanée en soutien des travailleurs illégaux. La perte en termes de production s'élève à 15 kg d'or par jour. Des observateurs craignent le déclenchement d'une crise sociale. Une semaine pour initier un demi-million de jeunes au numérique à travers toute l'Afrique, objectif de la troisième édition d'Africa Code Week, lancée aujourd'hui à Flic-en-Flac à Maurice. Africa Code Week a pour but de former la jeunesse africaine au langage informatique avec une attention particulière portée cette année sur la formation des filles.
Tout de suite les sports avec vous, Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Tatiana.
Coupe des Confédérations 2017, l'Allemagne réussit son entrée dans la compétition.
Victoire 3-2 devant l'Australie. Les buteurs allemands sur la pelouse de Sochi s'appellent Stindl, Drexler et Goretzka. Rogis et Juric avaient réduit le score pour les Australiens. On rappelle que le Cameroun s'est incliné 2-0 face au Chili. Prochain match, mercredi, Russie, Portugal et Mexique, Nouvelle-Zélande.
Retour en Afrique avec la Ligue des Champions.
Deuxième journée de la phase de poule, trois matchs demain. L'AS Vita Club au bord de l'élimination accueille Saint-Georges au Stade des Martyrs à Kinshasa. Dans le groupe C, le choc à Casablanca entre le Wydad et Al Ahly d'Égypte. Dans le groupe D, à Khartoum, El Merrekh espère se reprendre en accueillant le Ferroviaro de Beira dans le groupe A.
Et en coupe CAF aussi, les choses sérieuses reprennent.
Effectivement, sept matchs au programme, dont Oroya de Guinée, qui reçoit le CF Mounana du Gabon, TP Mazembe en déplacement chez Supersport d'Afrique du Sud dans le groupe D.
Nouveau scandale à la FIFA.
Et la justice interne de la FIFA, dont les responsables ont été récemment remplacés, a enquêté avant cela sur le rôle de Gianni Infantino dans l'élection du président de la Confédération africaine de football. Avant que son mandat arrive à son terme en mai dernier, le magistrat suisse Cornel Borbelli, président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique, avait ouvert une enquête sur de possibles agissements de M. Infantino en faveur de l'élection du malgache Ahmad Ahmad à mars à la présidence de la Confédération africaine de football. Selon le quotidien britannique The Guardian, M. Infantino aurait promis à plusieurs présidents de fédérations africaines d'accélérer le versement d'aide à leur fédération en échange de leur soutien à M. Ahmad.
Cyclisme, la cinquième étape du Tour de la RDC reportée à demain.
Oui, l'étape du jour qui devait se courir entre Massi Manimba et Kenge est renvoyée à demain. En cause, l'arrivée tardive de la délégation à Massi Manimba dans la province du Kwilu en provenance de Lubumbashi. Le Belge James Brandon reste maillot jaune.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Tatiana Mosso. Place à nos dossiers du jour, on prend la direction du Mali. L'insécurité dans le pays est plus que chronique. Chaque jour constitue son lot de victimes, des soldats aux civils en passant par des touristes. En une semaine, une dizaine de soldats maliens ont péri dans 3 attaques terroristes. Malgré cette situation d'insécurité, le gouvernement malien veut organiser un scrutin référendaire sur l'ensemble du territoire, cela en se basant sur un avis de la Cour constitutionnelle qui évoque une insécurité résiduelle. Kassim Traoré.
La situation sécuritaire demeure une préoccupation pour les Maliens. L'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Malgré cette situation, le gouvernement veut organiser le référendum le 9 juillet prochain. Mamadou Diawara, fonctionnaire.
Le référendum là est nul et non avenu. Les Maliens ne vont plus considérer ça parce qu'on est tombé dans une situation dont les conséquences se font encore sentir. Comme l'a si bien dit, le peuple malien est un peuple mûr. Il n'a de leçons à recevoir des personnes. Il sait où va et comment y aller. Un gouvernement qui n'a pas d'espoir est un pays qui est parti en dérive. Parce qu'Ibeka, vraiment, il ne donne pas quoi. Il ne peut pas servir le Mali comme ça. Le Mali est tombé en chaos. Dans 2 ans seulement, le Mali ne peut pas s'en sortir encore. Il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là très rapidement.
Dans Songo à Bamako, en passant par Hombori et Bintagungu, les soldats maliens sont la cible des attaques terroristes. Une dizaine d'entre eux sont morts, dont un dans l'attaque du campement Kangaba à Bamako. David Dambélé, webmaster.
C'est des attaques qui ne me surprennent guère. Vous voyez que du nord, ça s'est déplacé tantôt à Bamako, après ça a remonté au centre et maintenant ça redescend à Bamako. Et je pense que c'est vraiment une situation qui interpelle vivement les autorités à rester sur les qui-vive. La Cour constitutionnelle, elle fait une analyse complètement à côté de la plaque. Sur le terrain, on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'insécurité, elle est une réalité au Mali.
La priorité des autorité doit être la sécurité des personnes et de leurs biens partout au Mali. C'est ce que pense Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains.
De janvier à maintenant, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de victimes, environ 500 victimes. On n'est pas sûr aussi que ça va s'arrêter de sitôt. Donc moi, je pense que nos autorités doivent savoir choisir maintenant les priorités pour que les Maliens soient plus sécurisés et abandonner vraiment les projets superfétatoire. Tout ce qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas la garantie de la sécurité des Maliens, abandonner ça pour vraiment se consacrer à la tâche pour laquelle ces autorités sont là.
Pour aider les forces de sécurité, il faut la collaboration des populations. C'est ce que préconise Ansman Maïga, Malien vivant aux États-Unis de passage à Bamako.
Il faudra que les populations collaborent. Il faudra que nous fassions notre introspection. Sans notre collaboration, ça ne peut pas marcher.
Le Mali est dans l'insécurité. Alors que cela fait 18 mois que l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, les travailleurs du port autonome de Cotonou disent non à la venue d'un nouveau mandataire pour gérer la structure. Les travailleurs de la plateforme portuaire fustigent la gestion qui est faite de l'appel à candidature en vue de trouver un nouveau mandataire pour insuffler un dynamisme au port autonome de Cotonou, considéré comme le poumon de l'économie béninoise. Sur place, le reportage de Ginette Adandé.
Sale temps pour le gouvernement de Patrice Talon qui essuie bien de remontrances de la part des partenaires sociaux qui voient de mauvais œil la procédure de mise en œuvre de certaines réformes dont celles liées à la gestion de certaines sociétés d'État. En effet, les travailleurs du port autonome de Cotonou emboîtent le pas à ceux du CNHU et s'insurgent contre la privatisation du port autonome de Cotonou. Pour Urbain Philippe Canlissou, ce n'est pas en soi la réforme qui gêne, mais plutôt la manière utilisée et qui tend à faire croire à un flou bien orchestrée.
D'abord, le gouvernement a trahi le peuple. Ce qui était dit lors des campagnes, c'est que pour les sociétés d'État, ils vont lancer un appel à candidature pour recruter les directeurs généraux avec bel et bien un cahier de charges. Le cahier de charges permettra au gouvernement d'évaluer à tout moment pour voir si l'objectif fixé au départ peut être atteint. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont laissé de côté tout ce qu'ils ont dit et ils sont lancés dans la privatisation.
Cette grève d'avertissement qui sera reconduite a été fortement suivie par les travailleurs qui refusent de subir les mêmes affres que les employés des sociétés qui ont déjà fait les frais d'une mise en concession à procédure malhonnête. Même les travailleurs du ministère des Transports se sont associés à la cause de leurs collègues du port autonome de Cotonou. Athanase Oussou est le secrétaire général du syndicat du ministère.
Dans les jours à venir, si nous n'avons pas satisfaction à ce point, eh bien l'action va s'étendre. Toutes les structures sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports se mettront ensemble.
Le ministre des Transports se dit insensible à cette grève qui ne respecte aucune norme. Il a d'ailleurs relevé de ses fonctions un directeur d'une des cellules du port autonome de Cotonou qui est allé en grève comme ses collègues.
La grève n'est pas une solution. Il doit venir au travail parce que la grève n'apportera rien comme solution. Nous sommes dans un environnement concurrentiel et nous avons même l'obligation d'être performants.
Les travailleurs de l'aéroport affiliés au ministère des Transports menacent d'une grève aux boules de neige qui embrasera tous les secteurs du dit ministère. Pour Richard Dalméda, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'aéroport, il faut barrer la voie à ce gouvernement qui veut tout vendre dans un pays dont l'économie est asphyxiée.
Est-ce que c'est en vendant toutes nos propriétés que l'économie va se porter bien ou bien en préservant le peu que nous avons?
Il faut dire que la crise sociale est de plus en plus inévitable. Cherté de la vie, chômage, un véritable mélange pour une explosion sociale qui ne peut être évitée que si le gouvernement ramène la balle à terre en communiquant sur les motivations qui sous-tendent ses actions. De Cotonou, Ginette Le Adani pour VOA Afrique.
Après 10 ans de procédure, le premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis s'est finalement ouvert ce lundi à Paris et il concerne le fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang, est soupçonné par la justice française d'avoir détourné plus de 300 millions d'euros, une somme qu'il aurait logée à l'étranger. D'autres dirigeants africains sont également visés. Pour réaction, Abdourahman Dia a joint à Paris Benjamin Tongamani, le président de la plateforme contre la corruption et l'impunité au Congo-Brazzaville.
Ça représente un espoir par rapport à un problème qui dure comme depuis 10 ans. Et puis nous pensons que, à l'exemple de ce qui se passe pour la Guinée équatoriale, il y a suffisamment d'éléments pour qu'une plainte contre M. Sassou Nguesso puisse avoir théoriquement un résultat. Nous sommes un peu étonnés qu'au niveau de la France, qu'on n'aille pas un peu plus vite que ça.
Qu'est-ce qui se passe pour le cas particulier de la plainte contre le président Sassou Nguesso?
Nous cherchons des preuves qui sont des preuves en fait qu'on ne veut pas prouver. Vous savez très bien que le problème financier est un problème opaque. Il y a des choses très opaques pour pouvoir débusquer ce genre de problème. Donc nous pensons qu'il y a suffisamment d'éléments, notamment autour de la famille de Sassou Nguesso, qui a un enrichissement qu'on ne peut pas expliquer, qui fait que théoriquement, on aurait dû déjà passer à la fin de l'instruction, commencer déjà un procès. Nous n'accusons pas les politiques français, mais nous disons que quelque part, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que le gouvernement français accélère en fait cette procédure.
C'est une procédure qui peut être compliquée, notamment par le manque de collaboration des prévenus. Est-ce que cela vous donne quand même espoir pour votre cas particulier du Congo-Brazzaville?
Oui, ça donne espoir. Mais avant tout, comme je vous ai expliqué, le tout ne dépend pas seulement des preuves que nous avons. Le tout dépend de la volonté, effectivement, des pays qui s'occupent de l'instruction, de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est difficile, à partir du moment où les gens sont à Brazzaville, de pouvoir opérer ici une instruction qui soit rapide et conséquente. Mais nous pensons qu'avec le peu qu'ils ont, ils auraient pu arriver à ce point-là. Nous sommes très optimistes en disant que, de toute façon, le temps politique n'est pas le même que le temps judiciaire. C'est vrai que nous sommes impatients, mais nous disons que ce problème finira par être réglé. Réglé surtout lorsque M. Sassou Nguesso sera plus au pouvoir.
Pour vous, c'est une affaire politique et judiciaire.
Quel est l'intérêt immédiat pour qu'un pays comme la France, même les États-Unis, aille dans ce sens-là? À moins que les rapports avec M. Sassou Nguesso essaie une fois pour toutes de pouvoir mettre ce dictateur à côté. Mais vous savez très bien que la politique, elle ne se fait pas avec des bonnes intentions, elle se fait également avec des intérêts.
C'était Benjamin Tungamani, le président de la plateforme contre la corruption et l'impunité.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
84% de réfugiés se trouvent dans des pays en voie de développement ou à revenu moyen. Le Tchad est le pays qui accueille plus de réfugiés par rapport à sa population, quatrième au monde après le bilan, après le Liban, la Syrie et la Jordanie. Solange Niamouliza a joint Lydie Navigué, chef de bureau du HCR à Bagassola, pour faire le point sur les réfugiés de la région du lac Tchad.
Pour la région du lac Tchad, nous accueillons essentiellement les réfugiés venus du Nigeria qui ont fui la crise Boko Haram. Mais le Tchad a d'autres réfugiés d'autres nationalités. Aujourd'hui, on a environ 8000 réfugiés au niveau du lac Tchad qui ont fui les exactions menées par la secte Boko Haram. Mais on a beaucoup plus de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur même du Tchad. Il y en a environ 100 000 actuellement.
Quels sont les défis que rencontrent ces réfugiés?
Il y a de nombreux défis. Il y a des défis du point de vue de la sécurité, des défis du point de vue de la protection et des défis du point de vue socio-économique. En ce qui concerne la sécurité, avec les activités existantes d'éléments Boko Haram, la communauté humanitaire a du mal à se déplacer vers ces personnes-là, ça c'est un. Et deuxièmement, ces personnes-là sont obligées de fuir, de laisser tout tomber, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Ils ne sont pas dans les endroits qu'ils connaissaient avant. Ils sont coupés de tous leurs moyens de subsistance. Un autre problème aussi, il y a un grand déficit en matière d'éducation et en matière de structure étatique même. Et donc, une des grandes conséquences de cela, c'est qu'on assiste à des personnes qui n'ont aucune documentation, ni extrait de naissance, ni carte d'identité.
Chaque mois, le HCR demande l'argent pour aider les réfugiés, mais il ne reçoit pas. Est-ce que vous avez assez de moyens pour répondre tout justement à ces défis?
Bon, en termes de moyens, vous savez, c'est jamais assez. C'est jamais assez. C'est pour ça que nous sommes en train de changer, si vous voulez, de politique. Le moment de l'urgence est passé où on leur donnait une assistance à 100%, c'est-à-dire on a construit des abris pour eux, on a construit des latrines, des douches, des bacs à ordures, enfin tout. On leur a donné un centre de santé où les soins sont gratuits, les médicaments sont gratuits. On leur a ouvert des écoles où l'enseignement est gratuit et où les communautés hôtes peuvent venir aussi. Jusqu'à présent, on leur donne des vivres tous les mois, mais c'est jamais assez. C'est pour ça que, justement, on essaie maintenant de basculer sur les activités qui permettent l'autonomisation, mais en même temps qui gèrent les problèmes de coexistence entre les populations. Nous sommes en cela, c'est ça notre gros défi, c'est ça notre gros objectif, de pouvoir amener ces populations à être autonomes. On est en train de voir comment on peut les former, par exemple. On commence au niveau des jeunes, des adolescents, en termes de couture, de mécanique, des petites choses comme ça, pour qu'ils puissent avoir des activités. Pour les femmes, on a fait un petit volet d'activités génératrices de revenus en leur donnant du microcrédit. On les a regroupés en groupements. La pêche, on a mis à leur disposition des pirogues. C'est jamais assez, vous savez, c'est pour ça que nous espérons que d'ici 2019, en tout cas, ils soient beaucoup plus autonomes que maintenant.
C'était Lydie Navigué, chef de bureau du HCR à Bagassola.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. À la console, nous avons notre collègue El Taïb, et puis à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Bonne soirée à vous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.